J'ai toujours voulu combattre pour la liberté, l'égalité et la fraternité, qui non seulement constituent la devise de la République, mais sont pour moi les piliers de la justice. Au demeurant, celle-ci n'est pas qu'un impératif moral et social. Elle est aussi une institution qui doit rendre juste la force nécessaire de l'État, et j'ai fait mon métier de défendre ceux qui la subissent ou la réclament. Si le juge qui punit est le gardien de la liberté et le procureur qui poursuit celui de l'égalité, l'avocat, lui, veille à la fraternité. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez le cœur contre nous endurci, lancent les pendus de Villon. J'ai plaidé pour tant de vivants avant qu'on ne les juge, qu'ils font tous dans ma mémoire une farandole tumultueuse. Henri Leclerc est ce soir notre invité et comme chaque soir nous commençons en musique et ce soir ça sera Bernard Lavillier et Jeanne Chéral pour L'Espoir.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
Pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés, pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
Le soleil se lève aussi.
Le soleil se lève aussi.
Le soleil. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait,
pour la noirceur du soleil,
sur le sable des marées,
pour ta beauté au réveil,
pour mon calme retrouvé.
Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenez.
Quels sont les moments où vous avez le plus espéré, Maître Henri Leclerc, et quels sont les motifs pour lesquels vous avez le plus espéré ?
Qu'est-ce que j'ai espéré ? Tellement de choses. Des choses immédiates, bien sûr, comme tout le monde. Et quand on est avocat, on espère toujours qu'on va sauver quelqu'un. Et puis j'ai espéré pouvoir participer un peu à construire un monde meilleur. Voilà, c'est toujours mon espoir, mais je dois dire qu'il a des moments difficiles.
Quels sont vos motifs d'espoir aujourd'hui en ce printemps 2019 ?
Ah ben c'est tout de même une jeunesse qui n'est pas du tout ce qu'on dit dans les médias. Moi, je vois des jeunes. Et parlons par exemple des jeunes avocats que je vois, avec lesquels je vais m'entretenir. Bon, quand je parle avec eux, alors, bien sûr, il y a ceux qui ne pensent qu'à faire de l'argent, à devenir des avocats d'affaires, etc. Mais il y en a tellement d'autres qui voudraient faire ce que j'ai fait et qui ne peuvent pas y arriver parce que les places ne sont pas très nombreuses, mais qui défendent tous les jours des pauvres, des gens dans des conditions difficiles, et qui croient à leur métier, qui croient qu'il est possible de faire quelque chose pour ceux qui sont des paumés. Et ça, moi, j'en vois beaucoup, des jeunes comme ça. Alors, moi, quand je les vois travailler, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'espoir.
On vous appelle maître, je vous appelle maître. Que veut dire le mot maître ? Henri ?
Ça veut rien dire, maître. Maître, c'est comme ça qu'au Moyen-Âge, on appelait ceux qu'on n'appelait pas monsieur. C'est-à-dire, c'était les artisans, les barbiers, et les avocats, on les appelait maîtres. C'est-à-dire que ça prouve que nous sommes aussi des artisans, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des esprits très forts, non. Nous sommes aussi des gens qui fabriquons de la justice. Qui fabriquons la justice. Voilà.
Ça veut dire que la justice ne tombe pas du ciel, alors.
Comment ?
La justice ne tombe pas du ciel si on la fabrique sans cesse.
Bah, bien sûr. La justice, elle est propre des hommes.
La justice, c'est pas seulement la loi, alors. Et le respect de la loi.
La loi est un élément de la justice. La loi est un élément de la justice, puisque, par exemple, en matière de justice pénale, on ne peut pas interdire ce qui n'est pas interdit par la loi. Bon, c'est-à-dire que seule la loi limite la liberté, peut limiter la liberté. Alors, la justice, c'est d'abord de ne pas faire quelque chose qui n'est pas, de ne pas condamner, de ne pas poursuivre, de ne pas reprocher à quelqu'un quelque chose qui n'est pas interdit par la loi. Mais c'est autre chose. La justice, c'est aussi de ne pas condamner les gens. Je prends les termes de la Déclaration des droits de l'homme, mais de ne condamner les gens qu'à des peines strictement et évidemment nécessaires. Or, l'avocat, il est là. L'avocat, il est là aussi pour éviter que celui qui a commis des fautes ne soit jugé injustement. Je dirais qu'on se bat peut-être plus contre l'injustice que pour la justice.
Vous avez été longtemps président de la Ligue des droits de l'homme, Henri Leclerc. Vous plaidez pour une justice qui évolue avec le temps et qui n'est pas statufiée dans ses propres décrets et ses propres ordonnances.
Ah mais bien sûr, je suis pour une justice qui ne cesse d'évoluer et qui s'interroge toujours sur ce qui est juste. Et ça c'est...
Mais le juste évolue, cette notion même du juste peut évoluer.
Elle peut évoluer, c'est vrai, mais il n'empêche qu'il en reste toujours quelque chose. Au fond... Lorsque l'enfant proteste quelque chose contre une sanction qu'il n'admet pas, il dit c'est pas juste. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui existe dans cette notion de justice. Et puis la justice, c'est vrai, c'est d'abord un impératif social.
C'est un sentiment inné à l'intérieur de nous, selon vous, Henri Leclerc ?
Je ne sais pas s'il est inné ou s'il faut le construire, mais en tout cas, il faut y tendre. Et il faut essayer d'être juste. Ça me paraît indispensable. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que... J'en connais qui m'entendent, là, ils vont dire, ça y est, il commence son angélisme, il continue dans le laxisme.
On peut parler d'angélisme, puisque dans votre livre de mémoire intitulé « La parole et l'action », vous dites que vous êtes accompagné par un ange.
Oui, mais ça, c'est une figure de rhétorique. Cet ange qui m'accompagne, c'est une façon d'expliquer ce qu'est l'art oratoire improvisé. Voilà, c'est le fait que dans la communication, dans le fait de parler, toutes les préparations ne valent pas l'instant présent. Et c'est dans l'instant présent qu'on réussit à convaincre les gens.
Et là, il y a une sorte d'envol.
C'est-à-dire que je ne crois pas à l'éloquence. Verlaine disait « tord-lui son cou », mais enfin ça c'était pour l'art poétique. Mais enfin, Pascal lui disait « la vraie éloquence se moque de l'éloquence ». Il est vrai qu'il ajoutait « la vraie morale se moque de la morale ». Or, on ne peut pas dire qu'il était contre la morale, donc c'est assez compliqué. Mais l'éloquence, pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, l'éloquence, c'est de parler. C'est de parler aux gens. Les grandes figures de rhétorique, alors, elles viennent quelquefois instinctivement, elles meublent le discours, les méthodes, vous savez, la grande rhétorique telle que les Grecs, Aristote en particulier, l'ont définie avec l'éthos, la séduction, le pathos, l'émotion, le logos, la raison, tout cela est vrai. Mais le problème, c'est que celui qui fait un discours ou celui qui parle aux gens, ce n'est pas à ça qu'il parle. Il a simplement envie d'établir un contact avec ceux auxquels il parle, qu'ils écoutent ce qu'il dit, qu'ils réussissent à les convaincre. L'éloquence, c'est une conversation.
Vous parlez d'or, maître Henri Leclerc, mais nous sommes à une période où le gouvernement s'interroge sur le rôle des jurés. Et quand vous êtes à l'intérieur d'un tribunal et que vous essayez justement de convaincre et de pouvoir partir dans cet envol, vous parlez à qui ? À des jurés ?
Alors, je parle à des jurés ou à des juges d'ailleurs, parce que ça dépend des audiences.
Évidemment, et
mais moi,
avec les
personnellement,
juges
aussi. Je crois aux jurés, je ne suis pas content de ce projet de réforme qu'on nous fait, je l'ai dit. Bon, ça n'a même pas été... Le Conseil constitutionnel ne l'a pas... Non, papa ne l'a pas annulé. Il a annulé d'ailleurs un certain nombre de choses très intéressantes dans la nouvelle loi. Mais je trouve que cette décision du Conseil constitutionnel est très intéressante, elle est importante. Mais en ce qui concerne la suppression de la Cour d'assises, enfin, je veux rappeler quand même que nous sortions en 1789 d'une période où la justice était totalement secrète, rendue par des juges qui ne statuaient que juridiquement, c'est-à-dire qu'une preuve c'était un aveu ou deux témoins, enfin bon, bien. Et puis là ils ont dit non, la preuve c'est l'intime conviction, et l'intime conviction des citoyens. Beccaria disait le bon sens, mais l'intime conviction des citoyens, et il faut que tout soit discuté oralement devant eux, quelles que soient les enquêtes préalables, etc. Ils ne condamnent que sur ce qu'ils ont vu. La parole est au cœur de la justice à ce moment-là. Et donc, quand on recule sur ce côté sur le plan de la parole, je suis toujours un peu inquiet. L'écrit, Dieu sait si c'est important et si j'aime ce qui est écrit, mais la parole, surtout dans sa relation avec la justice, c'est absolument essentiel. Et il y a une chose que je voudrais faire remarquer. C'est que, alors que l'éloquence a été rejetée, que tout le monde disait « arrêtez, qu'est-ce que c'est que ces paroles sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt ?» Il y a actuellement un mouvement, sans doute dans la suite du film à voix haute, il y a un mouvement, moi, toutes les semaines je vais à un jury, qui est un jury d'éloquence, où il y a des avocats, bien sûr, des étudiants, mais des lycéens aujourd'hui. Et on m'a même dit qu'il y en avait un avec des collégiens. Et moi je suis épaté, je suis allé à Douai l'autre jour, où il y avait un concours de lycéens, qui étaient les lycéens de seconde. Leur parole était extraordinaire. Donc, il y avait 350 lycéens qui assistaient à cela. Et donc, je trouve que cette redécouverte de la parole et de l'importance de la parole et du plaisir qu'ont les gens à écouter la parole, ils vont juger des gens sur la force de ce qu'ils ont dit. Et moi, je suis très intéressé, d'ailleurs, par quand je parle avec eux. Ce qui les intéresse, c'est pas tellement la forme. Ils ont compris que la forme était donnée par surcroît. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'on leur dit.
Et la force de conviction, peut-être.
Bien sûr. C'est ça, c'est ce qu'on leur dit et ce qu'on convainc. Vous savez, est-ce que je peux vous raconter une petite histoire de la littérature? Au XVIIe siècle, il y a trois grands orateurs sacrés. Il y a Bossuet, dont on sait qu'il est prodigieux. On ne sait pas s'il écrivait avant ou après, mais enfin, ce qu'il dit est prodigieux. La musique est extraordinaire, la langue est extraordinaire. Il y a Bourdaloue, qu'on connaît moins, mais qui est un grand orateur. Puis il y en a un qui s'appelle Massillon, qui aussi prêchait le roi, il faisait l'oraison. Et comme tous ces gens-là, il faisait une critique au roi. Il se prenait un peu pour les prophètes d'Israël, critiquant les rois. Mais enfin, bien entendu, quand on voit ça chez Bossuet, soit critique du roi est un grand exercice de flagornerie. Mais Massillon fait son discours et Louis XIV lui dit « Mon père, j'ai entendu beaucoup d'orateurs. J'en ai été très content. Mais vous, vous m'avez rendu mécontent de moi-même. » Et ça, je trouve que c'est la définition même de l'éloquence.
Vos parents étaient instituteurs, Henri Leclerc.
Mes grands-parents.
Vos grands-parents.
Oui.
Vos parents ne vous ont pas particulièrement donné la vocation de l'éloquence. C'est vous-même qui l'avez construite durant votre itinéraire.
Je l'ai trouvée.
Vous l'avez trouvée. C'est votre ange qui vous a accompagné.
Voilà, c'est mon ange.
Mais justement, avant de rencontrer votre ange, il y a eu quand même la radio. Et la radio, c'est extrêmement important parce qu'un jour, vous avez entendu ceci.
Dans une salle du palais de justice de Paris, le glaive de la loi va trancher. Trancher des têtes. Car pour un darnant qu'on juge, il ne peut y avoir d'autre sentence. Devant le président Mongibaud, devant la cour, devant les jurés, Darnan pourra verser des larmes. Elles n'effaceront pas le sang des maquisards assassinés, des résistants torturés, des patriotes fusillés, inscrits à l'actif du déménageur de Nice. La cour n'a fait que confirmer l'arrêt du peuple de France, la mort. Et voici dans la même salle un autre gibier de choix. Celui-ci ne joue pas les naïfs. Pierre Laval a oublié dans tous les sens d'être un innocent. Il fut avocat, il plaide. Il fut homme public, leader de parti, parlementaire, chef de gouvernement, il discourt. Il discourt, mais il a voulu la victoire de l'Allemagne. Il discourt, mais il a trahi. Ses manœuvres dilatoires ne peuvent plus réussir aujourd'hui, non plus que ses violences qui l'ont fait expulser de la salle. L'heure est venue de payer. Et c'est devant un fauteuil vide, la sentence que la France attendait, la mort.
Que s'est-il passé à l'intérieur de votre tête, Henri Leclerc, quand vous avez entendu ce jugement, la mort et l'exécution de Pierre Laval? Alors, qui n'a pas eu le droit d'être défendu.
Bon, je ne l'ai pas entendu à la radio, j'avais 11 ans, mais j'ai été très secoué par la colère de mon père. Mon père, pendant la guerre, pour lui, Laval, il me parlait beaucoup, on écoutait Radio Londres, etc. Mais il détestait Laval par-dessus tout, parce que c'était un renégat, parce que c'était un type qui s'était enrichi dans la politique, parce qu'il avait donné le plein pouvoir à Pétain en 40, parce que c'était lui qui persécutait les Juifs, enfin, tout. Laval était l'abomination des abominations. Et un jour, il y avait le procès, moi je le savais, mais vous savez, à l'époque, on entendait parler de gens condamnés à mort, etc. Je n'étais pas très sensibilisé à cela. Et mon père rentre très en colère, très en colère. Il disait, mais c'est pas possible, ils ne l'ont pas jugé, ils ne l'ont pas entendu, ils l'injuriaient, son avocat n'a pas pu plaider. Et après, on l'a conduit au poteau, il s'était suicidé, ils l'ont ressuscité et pour le fusiller. Et cette colère de mon père m'a secoué à tel point, parce que je comprenais pas. Il m'a pas vraiment écouté, bon, mais... Quand même, il m'a bien écouté, parce que 3 ou 4 ans après, il m'a donné le livre d'Alberneau, l'avocat de Laval, qui était « Pourquoi je n'ai pas défendu Pierre Laval ?» J'avais 14 ou 15 ans, et là j'ai été secoué, j'ai compris ce qu'était la nécessité de la justice. Je ne supporte pas un fac-similé de justice. J'ai eu la chance de devenir le collaborateur d'Alberneau par la suite, il m'a beaucoup parlé de cela, mais c'est vrai que Laval, d'abord, c'est le problème général de la peine de mort qui m'a révolté depuis mon jeune âge. Parce que mes deux parents, il y en avait un qui était agnostique et l'autre qui était pieuse, et ils s'entendaient quand même très bien. Bon, les deux étaient très hostiles à la peine de mort. Et ça m'a marqué toute la vie. No était un combattant contre la peine de mort, j'ai été amené à condamner. Donc il y avait le problème de la peine de mort. Mais cette justice qui n'en est pas une, cette justice qui fait cette espèce de simulacre, cet alibi, cette façon de prendre les oripeaux de la justice... Et de faire une justice qui est faite d'avance, ça c'est quelque chose que je ne supporte pas.
Vous avez plaidé avant l'abolition de la peine de mort.
Oui.
On parlait d'espoir en ce début d'émission et vous dites à l'intérieur de vos mémoires, Henri Leclerc, que justement dans ces procès-là, vous espériez tellement qu'il n'y ait pas de peine de mort. Vous n'avez pas eu de peine de mort à l'intérieur de votre itinéraire d'avocat. Mais vous avez eu des condamnés qui l'ont été à perpétuité. Et vous faites remarquer dans votre ouvrage qu'il y a des avocats, encore aujourd'hui, qui se disent « Mais peut-être notre métier serait, excusez-moi de la brutalité, de la vulgarité du mot que je vais employer, notre métier serait un peu plus saignant s'il y avait encore la peine de mort. »
Exactement. Et moi, je me souviens très bien, je le raconte dans mon livre, un avocat que j'adorais, un avocat prodigieux, qui un jour à Aix-en-Provence m'a dit ça, qui m'a dit « Ton ami Badinter, il a privé notre métier de ce qu'il avait d'extraordinaire, de cette dimension. » En fait, il regrettait son adrénaline peut-être, mais enfin, il y a quelque chose qui est... Alors, c'est vrai qu'avec la mémoire, aujourd'hui, quand je pense à ces 6 affaires, je crois, dans lesquelles une peine de mort a été demandée et mon client n'a pas été condamné à mort. C'est vrai que ce sont des souvenirs extraordinaires. Des souvenirs, mais vous savez, on est tellement content du résultat qu'on oublie l'angoisse qu'on a eue avant. Mais il faut bien le dire, nous portions quelque chose de terrible parce que c'était la vie de celui qui était derrière nous que nous portions. Et ça, c'était d'une angoisse effrayante. Et si on était mauvais, et si on ne trouvait pas les mots, etc. La responsabilité était écrasante. On sait bien que c'était les actes qu'il avait commis qui étaient jugés. Mais il fallait trouver les mots. Et ça ne pouvait se faire que dans une angoisse terrible. Eh bien, je crois que certains aimaient cette angoisse. Moi, je ne l'aimais pas.
Si je vous dis rendre justice et se rendre justice, est-ce que c'est la même chose ?
Ben non. Mais non. Rendre justice, c'est une décision des juges. Ils sont faits pour ça.
Ça alors, peut
c'est
coïncider.
Une décision du peuple. C'est une décision du peuple, bien sûr. Mais se rendre justice, c'est s'arroger la plénitude de la justice. Alors, nous sommes arrivés, la République, etc., à dire c'est le peuple, c'est le terme qu'il y avait, mais on a trouvé des moyens pour essayer d'être juste. Et c'est ça. Alors vous savez, la justice, c'est très compliqué. Moi, je vais faire le cuistre, parce que c'est une phrase que je cite tellement qu'elle est même plus cuistre. Pascal a une formule extraordinaire. Il dit à un moment, on sait bien qu'il faut mettre ensemble la force et la justice. Mais parce que la force sans la justice est tyrannique, et la tyrannique sans la force est impuissante. Et il ajoute ceci, et quand on a pu faire en sorte que la justice soit forte, on a fait que la force soit juste. Et je crois que c'est ça très important. La justice, bien sûr qu'il faut un ordre dans la société, il faut une organisation, etc. Et la justice, c'est l'institution qui est chargée de rendre juste la force de l'État. Et donc l'obsession du juge, c'est d'être juste.
Il y a exactement 9 ans, Maître Henri Leclerc, vous quittiez avec fracas une commission où vous étiez mandaté par l'Ordre des avocats de Paris et par le Conseil national des barreaux pour représenter votre profession, dans un groupe de travail du ministère de la Justice sur la réforme de l'instruction, parce que vous n'aviez pas obtenu satisfaction. Vous disiez à l'époque, il faut rompre le lien entre le parquet et le politique. C'était donc il y a 9 ans, et aujourd'hui, où en est-on ?
Eh bien, c'est pas très brillant. Périodiquement, le parquet, c'est une institution admirable, disait Montesquieu, qui depuis l'Ancien Régime, etc. Bon. En fait, ça a été voulu comme une armée par Napoléon, c'est ceux qui... La poursuite, ce sont les gens qui accusent, ce sont les gens qui mènent l'accusation. C'est donc un métier tout à fait spécial, qui n'est pas le même que celui des juges. Et la tendance des gouvernements, c'est de donner de plus en plus de pouvoir au parquet, qui est hiérarchisé, qui est certes depuis une loi de Taubira, qui reprenait d'ailleurs des lois précédentes, mais très clairement interdit de donner des instructions particulières dans une affaire, mais il n'empêche que le parquet, c'est, et là-dessus la Cour européenne est très sévère avec la France, le parquet, c'est celui qui accuse, c'est une partie. Et donc, la dernière loi, par exemple, donnait de plus en plus de pouvoir au parquet, presque des pouvoirs de juge. Et là-dessus, le Conseil constitutionnel a mis un frein, et je crois que c'est important.
Je vous propose d'écouter la voix de Vladimir Yankelevitch, qui va s'exprimer à propos de sa manière de faire justice, c'est une archive INA, du 24 février 1978.
Comme de toute façon, on regrette quelque chose, quoi qu'on fasse. Ça fait partie du problème de l'action politique, vous savez ça, et morale. Quoi qu'on fasse, on regrette quelque chose. On regrette de s'être engagé, de ne pas s'être engagé. On regrette d'avoir signé, de ne pas avoir signé. Eh bien, entre deux regrets, eh bien, je choisis le regret de ne pas signer, n'est-ce pas ? Je signe. Par exemple, dans les problèmes où l'action est très urgente, où le péril qu'on court est très grand, est mortel, vital, ce qui revient au même, quand la France est envahie, piétinée par l'occupant, par des bêtes féroces, n'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, où on a guère le choix des moyens, que voulez-vous, faire sauter un viaduc quand il passe un train, c'est une chose devant laquelle on n'hésiterait pas. Mentir n'est pas seulement une chose permise, mais c'est même un devoir. C'est le plus sacré des devoirs. Si je le crois, si je le dis, et si je le maintiens, je vous crois que je le dis. Et je le répète plus que jamais, puisque les nazis, après tout, sont des hommes que par hasard, n'est-ce pas ? Et leur dire, leur mentir, mentir à un nazi, ce n'est pas mentir, c'est dire la vérité.
Que pensez-vous de la définition de Yankelevitch et comment définiriez-vous philosophiquement ce qui constitue l'essence même et le cœur battant de votre métier depuis de nombreuses décennies, Henri Leclerc, l'approche ou la teinte de la vérité ?
C'est compliqué, la vérité. La notion de vérité est curieusement une notion plus compliquée qu'on ne le croit. Et combien de fois me suis-je trouvé donc dans la situation particulière de l'avocat qui se trouve en face d'un dossier, qui construit complètement une culpabilité, avec un accusé qui dit non, c'est pas moi. Combien de fois me suis-je trouvé dans cette situation où il y avait une démonstration implacable allant vers la vérité, et puis quelqu'un qui disait non, c'est pas moi. Et à ce moment-là, j'ai étudier à nouveau le dossier. J'ai réfléchi. J'ai essayé de comprendre. Et un jour, j'ai trouvé une phrase merveilleuse. Une phrase de Leroy Gouran, un grand archéologue, qui se moquait de ceux qui sont à Lascaux et qui croient qu'en voyant un trait de droite à gauche et un autre de gauche à droite, ils ont découvert quelle était la religion de ceux qui avaient fait cette grotte. Et il disait... Il faisait remarquer cette curieuse propension pour les faits à se ranger dans le bon ordre pourvu qu'on les éclaire d'un seul côté à la fois. Et ça m'a paru extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a un dossier qui éclaire tout d'un seul certain côté. Et puis brusquement, on se dit on va essayer d'éclairer le dossier d'un autre côté. Et on est stupéfait de s'apercevoir que les choses s'enchaînent à nouveau et qu'on se trouve en face de deux vérités. Alors on va me dire, mais c'est pas vrai, il n'y a pas de vérité, il n'y en a qu'une. Mais d'abord, pour nous, l'important, c'est le doute, c'est-à-dire de savoir si la vérité qu'on nous apporte est certaine et s'il y en a une autre, elle n'est plus certaine. Et donc, ce travail de remise en cause d'une vérité établie est essentiel parce que ça évite de condamner les innocents. Ce qui existe. Il vaudrait mieux acquitter un coupable. Tout le monde en est d'accord. Et donc, ce regard différent qui fait apparaître cette chose étrange d'une multitude de vérités me paraît absolument nécessaire à une bonne justice.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Henri Leclerc, Barbara, si la photo est bonne.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne. N'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant. Quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Merci pour ce choix. Pourquoi ?
Bon, écoutez, ça serait ridicule de le commenter. Évidemment. Ou bien on comprend.
Vous en avez connu des femmes de président comme
mais
ça?
Une femme de président, non. J'ai connu effectivement beaucoup de gens qui avaient vis-à-vis de la peine de mort et vis-à-vis de la justice un comportement bizarre. Mais si vous voulez.
Comment ça bizarre? Vous
mais
avez
pas
dit
parce
bizarre.
Qu'ils avaient, pour eux, n'est-ce pas, c'était ces assassins, ces gens qu'on jugeait. Bon, bien sûr, il fallait les condamner à mort, mais en même temps, alors notre métier, nous, c'est justement cela, c'est-à-dire de faire en sorte que celui. Mais vous comprenez, si on parle sur cette chanson, on est ridicule. Il faut écouter cette chanson et puis c'est tout. Mais quand même, je vais vous en dire une fois où je l'ai citée. Nous avions mon patron. Albert.
Ah bah oui, parce que vous êtes un spécialiste des petites chansons à la fin de vos plaidoiries, Henri Leclerc.
Ah ben bah nous sommes arrivés une fois, alors bon, mais.
Donc vous pouvez pas nous chanter une petite chanson là en direct, non?
Non.
Après Barbara.
Non, mais je ne chante pas devant beaucoup de gens. Quand je plaide, effectivement, une fois, ça m'est arrivé, mais bon, non. Ce que je veux dire, c'est que cette chanson de Barbara, ça me rappelle. Je l'ai citée une fois à mon patron. Il avait un client, bon, dont je m'occupais aussi, dont tout le monde disait qu'il allait être condamné à mort. Et je le vois, je lui dis, j'ai vu le président, je crois qu'il est hostile à la peine de mort. Et il se marre, et il me dit, ils nous disent tous ça. Mais il les condamne quand même à mort, et après, il se contente de ne pas serrer la main du bourreau. Et ça, c'est très fort comme phrase, c'est très caractéristique de certains comportements. Et la chanson de Barbara, elle porte en elle-même tout ce qu'elle a à dire, et puis c'est tout. On la prend comme elle est magnifique, mais on la prend comme elle est. Mais bien évidemment, quand on mène un combat contre la peine de mort, moi, ça ne me gêne pas d'entendre cette chanson. Je trouve que c'est un plaidoyer contre la peine de mort, aussi extraordinaire que ça peut se paraître.
Êtes-vous heureux, Maître Henri Leclerc, de toutes vos plaidoiries avec le recul du temps? Il y a eu deux dossiers où vous avez été très amèrement critiqué. On s'attendait pas à cela de vous, notamment. Oui, vous hochez de la tête, vous devinez déjà ce que je vais vous dire. C'est un peu compliqué hein, de vous poser des questions parce que vous anticipez immédiatement. Évidemment, c'est l'affaire du Carlton, de l'hôtel Carlton pour Dominique Strauss-Kahn, histoire libidineuse, avez-vous dit, mettant en colère toutes les féministes dont je suis. Mais vous avez obtenu gain de satisfaction, puisque Dominique Strauss-Kahn n'a pas été condamné grâce à la qualité de votre plaidoirie. Et puis l'affaire Clearstream avec Dominique de Villepin, pas terrible, non?
Eh bien, je vais vous dire, évidemment, évidemment, ce n'est pas ma clientèle habituelle. Mais si vous parlez de Dominique de Villepin, j'étais très choqué que le président de la République, qui avait été victime, effectivement, d'un sordide règlement. Enfin, c'était abominable, ce faux listing qui l'accusait d'avoir fait des opérations frauduleuses, etc. Mais et qu'il ait dit qu'il allait pendre Villepin à croc de boucher, ça m'avait déplu et j'ai donc accepté ça. En plus, Villepin était vraiment totalement innocent. Pour Strauss-Kahn, c'est un problème qu'il a fallu faire comprendre. Car c'est une question. quand on juge quelqu'un, c'est pour une infraction définie par la loi et une infraction qu'il a commise. Alors, que Dominique Strauss-Kahn ait des comportements libertins? Qu'effectivement, des femmes trouvent que ces comportements libertins ne sont pas moralement acceptables. C'est leur affaire, mais ils ne sont pas réprimés par la loi. Et le fait d'avoir prétendu qu'il était un proxénète, ce qui est contraire à la loi, ce qui est le contraire de la loi, m'a amené à le défendre, mais vraiment, totalement. Bon, j'ai fait la connaissance de cet homme, qui a des qualités remarquables, mais bon, c'est pas la question. La question, c'est qu'il était poursuivi pour proxénétisme. Ça, c'était un véritable scandale, parce qu'on avait trouvé une infraction pour habiller un comportement libertin qu'on voulait condamner. Or, on ne condamne pas quelque chose... quelque chose qui n'est pas prévu par la loi, les comportements libertins ne sont pas condamnés par la loi. On peut en penser ce qu'on veut, hein, mais ce n'est pas condamné par la loi.
Dans cette émission, Henri Leclerc, on demande à l'invité, enfin à quelqu'un qui connaît bien le travail de l'invité, de s'exprimer à son propos et de lui poser une question. Dans votre livre, La parole et l'action, qui est vraiment un document tout à fait exceptionnel par l'ampleur de sa mise en perspective et par les questions philosophiques sur la justice que vous nous posez, à nous citoyens, il est beaucoup question du statut de l'enfant dans la justice. Nous avons donc demandé à Jean-Pierre Rosenweg, qui est un ancien juge pour enfants, qui a été très longtemps le président du tribunal de Bobigny pour les enfants, de savoir ce qu'il pensait de vous, et il va vous poser une question très précise qui va coïncider avec l'actualité que nous traversons en ce moment. Écoutez Jean-Pierre Rosenweg.
C'est une des grandes personnalités de la démocratie française, du droit français, des libertés. Personne ne peut lui contester à la fois sa droiture et son engagement. Et là encore, il est engagé effectivement sur les grands enjeux, comme le retour des enfants français nés sur les terrains de guerre. La pétition, elle correspond à un problème aigu, non pas en quantité, mais en qualité, tous les sens du terme, qui nous est posé. Est-ce qu'effectivement, il faut permettre à ces enfants qui sont nés de Français, certes, qui sont partis faire le djihad, certes, qui ont parfois apporté les armes et commis des exactions majeures, c'est le moins qu'on puisse dire, mais est-ce que les enfants doivent être punis de l'attitude de leurs parents? Et on sait qu'ils vivent dans des conditions qui sont tout à fait déplorables, et chacun des États se doit de protéger ses ressortissants. C'est le principe même de la nationalité, de l'appartenance, entre guillemets, à un État. Je pense qu'il faut dépasser tout ça. Dans l'histoire de France, on a su faire face à des situations bien plus délicates, tout aussi délicates que celle-là. Et il faut surtout faire confiance à notre dispositif, entre guillemets, de formation, d'éducation, j'allais dire de déprogrammation, puisqu'en l'espèce, c'est les mots qui peuvent être utilisés. Ces enfants étaient programmés ou ont vécu des scènes de guerre ou des scènes d'horreur, mais ce sont des enfants qui ont 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, même s'ils sont adolescents. On peut, effectivement, en faisant confiance à nos compétences, à notre qualité, à nos valeurs, à notre système de vie, on doit pouvoir les prendre en charge. La réponse qui a été faite, c'est au cas par cas. Le droit est applicable au cas par cas. Donc, effectivement, il s'agit de pousser plus que jamais les autorités françaises à ne pas être frileuses et à oser faire venir. Alors, c'est vrai qu'il faut l'assumer. Il faut avoir un débat pédagogique avec l'opinion. Globalement, l'opinion, légitimement, est inquiète. Moi-même, le premier, il y a quelques mois, je me posais la question. Bon, beaucoup de gens se sont posés la question de savoir si, effectivement, comment il fallait traiter ce problème. Est-ce qu'il faut le traiter globalement, massivement? Tout ça, ce sont des familles terroristes et il faut les laisser là où elles sont puisqu'elles ont choisi d'y être. Ou est-ce qu'au contraire, il faut serrer les problèmes? Le père qui a porté les armes, la femme qui éventuellement a cautionné et les enfants qui n'y sont pour rien. Ah ben, je pense qu'Henri pourrait, avec sa sagesse, son expérience et son acuité, peut-être identifier sur une échange de 10 à 20 ans où sont les grands enjeux en termes de liberté. Où vont se mener les combats demain sur les libertés individuelles et collectives? Et je pense qu'Henri, avec son expérience, doit être capable d'identifier les grands sujets qui vont poser problème dans les temps qui viennent et les lieux dans lesquels il faut être.
Alors, plusieurs questions que vous pose Jean-Pierre Rosenweg. La première, c'est qu'effectivement, vous êtes à l'initiative avec Maître Marie Dauzé, début mars dernier, d'une pétition qui a été lancée pour demander le retour des enfants français de Syrie. Pourquoi?
Parce que on ne peut pas faire peser sur les enfants la faute de leurs parents. Ça, c'est le premier point. Or, les enfants, ceux que nous défendons, ils ont presque tous moins de 6 ans. Sont dans des situations dramatiques. on le sait, puisque l'on a fait revenir 5 qui étaient des orphelins complets et qu'on a constaté l'état lamentable dans lequel ils étaient. Ces enfants crèvent. Bon. On ne peut pas ne pas poser ce problème. C'est le premier point. Deuxièmement, la question de ces enfants, c'est, on dit, le cas par cas. Moi, je dis qu'on nous donne d'abord un principe, c'est qu'on doit les rapatrier. Après, on verra, il y a des problèmes. Je ne pose pas le problème des pères. Le problème des mères, il est effectivement compliqué. Parce qu'il y a peut-être des mères qui ne veulent pas être séparées de leurs enfants et qui veulent garder leurs enfants sur place. Bon, ça, c'est leur droit. Mais la plupart de ces mères, nous le savons, demandent à ce que les enfants reviennent. Alors on me dit, mais ces mères, on ne peut pas les ramener en France parce qu'elles sont trop dangereuses, on ne va pas les juger en France. Il faut que, pour une raison de principe, pour une raison d'un principe quand même qui n'a pas une force considérable par rapport à l'humanité, qui est, il faut qu'elles soient jugées sur le lieu de même. D'abord, le lieu, c'est le Kurdistan syrien, c'est pas un État. Ils n'ont pas de mécanisme pour juger les gens. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est que les mères, est-ce qu'il faut rapatrier les mères, pas les rapatrier? C'est un autre problème. Moi, je pense que beaucoup de ces femmes ne sont peut-être pas allées là-bas aussi librement qu'on le croit. On ne peut pas à la fois dire une chose et son contraire. Bon. Mais même, eh ben, si elles acceptent que les enfants reviennent, qu'on ramène les enfants et qu'on prenne un principe de retour des enfants avec des exceptions cas par cas pour ceux qu'on ne ramènerait pas. Moi, c'est tout ce que je demande, et qu'on sorte de cette situation et qu'on dise oui, on va ramener ces enfants qui sont en train de mourir.
Autre question que vous pose Jean-Pierre Rosenweg, où se déplace le terrain de défense des libertés individuelles et des libertés collectives? On sait, Maître Henri Leclerc, que vous aviez été très net dans la prolongation de l'état d'urgence du temps de François Hollande. Quelle est votre position sur la loi anti-casseurs et que pensez-vous du fonctionnement de la justice aujourd'hui?
Lorsqu'arrivent des crimes collectifs comme le terrorisme, comme d'autres, bon, c'est une mauvaise réponse que de réduire la liberté de tous. C'est-à-dire que on fait des lois au nom de la sécurité, qui libère toutes les libertés. Et les gens applaudissent, sans se rendre compte que c'est leur liberté qu'on va limiter aussi. Et cette espèce de décision générale de limitation des libertés pour combattre le terrorisme, on sait très bien une chose. C'est que notre police a quand même agi efficacement. On en a arrêté beaucoup, il y en a beaucoup qui sont en prison. Mais la plupart du temps, ça a été fait par des méthodes classiques, des méthodes de police. Quel besoin y a-t-il de limiter sans arrêt les libertés de tout le monde? Et c'est ça le problème, c'est que je considère que la réponse collective et générale d'une limitation des libertés, alors qu'il suffirait d'avoir une police efficace, mais que les citoyens ne se rendent pas compte que limiter leur liberté ne résout pas le terrorisme, c'est ça que je veux combattre.
Et la loi anti-casseurs?
Oh, la loi anti-casseurs, écoutez, il y a une disposition dans la loi anti-casseurs qui est contraire aux principes fondamentaux. C'est une décision qui consiste à faire limiter une liberté par une décision préfectorale. Alors que les libertés peuvent être limitées par le juge, bien sûr, ça, à condition que les infractions soient bien définies et que cette sanction soit prévue. Bon, ça, je pourrais dire que c'est trop sévère, tout voulant, mais en définitive, sur les principes, non. Mais cette idée de confier au préfet la possibilité de liberté, de limiter la liberté de manifester, c'est quelque chose qui me paraît pas raisonnable. De toute façon, nous allons, je pense, avoir cette semaine une décision du Conseil constitutionnel. On va bien voir ce qu'il va dire.
Vit-on, dernière question, Maître Henri Leclerc, vit-on un déclin de la définition même du mot liberté? Je veux dire, au moment où la justice est de plus en plus expéditive pour les plus faibles et les plus opprimés, au moment où les prisons se multiplient, au moment où les possibilités de réinsertion des prisonniers sont diminuées. Hélas, vous qui avez été un ardent militant au moment du groupe Information Prison, aux côtés de Michel Foucault et d'autres intellectuels pour repenser la prison dans notre société, n'avez-vous pas l'impression que justement la liberté devient un bien tellement, tellement suprême qu'il en devient gênant?
Vous savez, c'est pas nouveau, c'est toujours la même chose. C'est empêcher les autres de faire des choses dangereuses. Limiter la liberté des autres, pas la mienne bien sûr, mais la liberté des autres pour que moi je sois tranquille. Et personne ne se rende compte que c'est lui-même dont on limite la liberté, en même temps qu'il veut limiter la liberté des autres. Alors, moi, ce que je crois vraiment, c'est que vous avez bien fait de parler des prisons, qui sont un drame dans notre pays, comme dans d'autres d'ailleurs. Une humiliation pour la République, disait le Sénat. Le problème des libertés, c'est surtout que ça soit une exigence citoyenne, une exigence totale, de préserver les libertés fondamentales. Et ce n'est pas parce qu'on préserve les libertés fondamentales qu'on permet n'importe quoi. Cette idée que, n'est-ce pas, nous serions des angélistes, etc. Non, la liberté, je rappelle que c'est, elle a été conquise dans la force aussi. Bon, la liberté, c'est essentiel. La liberté, c'est ce qui est, à mon avis, indispensable à l'homme. Alors, bien sûr que la liberté, elle a des limites. Elle a des frontières qui doivent être déterminées par la loi. Je suis tout à fait d'accord. Mais encore faudrait-il que ces frontières ne soient pas des frontières générales, c'est-à-dire que ça ne soit pas une limitation générale de la liberté. Voilà ce que je crois et pour lequel je me bats.
Tout à l'heure, vous avez dit au cours de l'émission qu'il y avait peut-être des innocents encore aujourd'hui dans les prisons.
Bien sûr.
Vous le pensez vraiment ?
J'en suis sûr. J'en suis sûr. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, mais je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Que la justice n'a pas une réussite à 100%. Alors il faut tout faire pour éviter qu'il y ait des innocents, mais je suis convaincu qu'il y en a.
Ça fait froid dans le dos ce que vous nous racontez.
Ben, qu'est-ce que vous laissez comme ça? C'est la faiblesse de la justice humaine. Vous savez, c'est comme ça, il y en a eu, vous savez, le nombre de gens et ces gens, tous ceux qui ont avoué des choses qu'ils n'avaient pas faites et dont on s'est aperçu après qu'ils ne les avaient pas faites. Et ces gens que l'on a arrêtés parce qu'on a cru qu'ils étaient coupables, qui ont été condamnés à des peines horribles. Regardez aux États-Unis le nombre de condamnés à mort depuis qu'on a découvert les vérifications avec l'ADN, car ils conservent mieux les traces des crimes. Le nombre de gens condamnés à mort dont on s'aperçoit qu'ils étaient innocents. On me dirait, c'est la justice américaine. Bon, la justice américaine est une autre forme de rendre la justice. Mais il est évident que normalement, les innocents sont aussi bien protégés aux États-Unis qu'en France. Et donc, je dis, il y a des innocents dans les prisons. Ce qu'il faut faire, c'est combattre pour qu'il n'y en ait pas.
La dernière phrase de votre livre, Maître Henri Leclerc, c'est « Je crois au matin ». C'est pas « Je crois au lendemain qui chante ». Qu'est-ce qui se passe
non.
Le matin ?
Ben, je crois que le matin, c'est ce qui vient après la nuit.
Ben, merci beaucoup. C'est magnifique. Comme conclusion ou comme épilogue de ce très beau livre qui s'intitule « La parole et l'action » aux éditions Fayard. Et nous allons nous quitter en chanson. Vous qui savez très bien chanter, Maître Leclerc, je suis sûr que vous connaissez par cœur Alain Bachung.
Oh, pas par cœur, mais je le
Allez,
connais.
Une petite chanson d'Alain Bachung en direct
non,
ce
non,
soir.
Non,
non. Eh bien, écoutez-le alors, en vrai.
Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Je n'ai pas d'amis. Il dit je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Il dit personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent et qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Il dit personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais. je ne l'ai jamais trouvé. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier. J'étais mort au milieu du béton. Aujourd'hui, je ne rencontre qu'aux étoiles dans le ciel et j'implore le pardon. Il dit, je n'atteindrai pas le paradis. Mais Dieu sait que j'aurais essayé. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé.
C'était Les Salines d'Alain Bachung. Merci à Guillaume Roux qui est à la technique ce soir, à Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer et Pierre Dindy. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission ce soir.